Chapitre 3, Paris 1838, année de ma vie 1802 et 1803, Monsieur de la Harpe, sa mort. J'arrivais pour voir mourir un homme qui appartenait à ces noms supérieurs au second rang dans le XVIIIe siècle et qui, formant une arrière-ligne solide dans la société, donnait à cette société de l'ampleur et de la consistance. J'avais connu Monsieur de la Harpe en 1789. Comme Flin, il s'était pris d'une belle passion pour ma sœur, Madame la Comtesse de Farcy. Il arrivait, avec trois gros volumes de ses œuvres, sous ses petits bras, tout étonné que sa gloire ne triomphât pas des cœurs les plus rebelles. Le verbe haut, la mine animée, il tenait contre les abus, faisant faire une omelette chez les ministres où il ne trouvait pas le dîner bon, mangeant avec ses doigts, traînant dans les plats ses manchettes, disant des grossièretés philosophiques au plus grand seigneur qui raffolait de ses insolences. Mais, somme toute, esprit droit, éclairé, impartial au milieu de ses passions, capable de sentir le talent, de l'admirer, de pleurer à de beaux vers ou à une belle action, et ayant un de ses fonds propres à porter le repentir. Il n'a pas manqué sa fin. Je le vis mourir, chrétien courageux, le goût agrandi par la religion, n'ayant conservé d'orgueil que contre l'impiété et de haine que contre la langue révolutionnaire. À mon retour de l'émigration, la religion avait rendu M. de la Harpe favorable à mes ouvrages. La maladie dont il était attaqué ne l'empêchait pas de travailler. Il me récitait des passages d'un poème qu'il composait sur la Révolution. On y remarquait quelques vers énergiques contre les crimes du temps et contre les honnêtes gens qui les avaient souffert. Mais s'ils ont tout osé, vous avez tout permis. Plus l'oppresseur est vil, plus l'esclave est infâme. Oubliant qu'il était malade, coiffé d'un bonnet blanc, vêtu d'un Spencer ouaté, il déclamait à tue-tête, puis, laissant échapper son cahier, il disait d'une voix qu'on entendait à peine « Je n'en puis plus, je sens une griffe de fer dans le côté. » Et si, malheureusement, une servante venait à passer, il reprenait sa voix de stentor et mugissait « Allez-vous-en, allez-vous-en, fermez la porte !» Je lui disais un jour « Vous vivrez pour l'avantage de la religion. »« Ah oui, » me répondit-il, « ce serait bien à Dieu, mais il ne le veut pas, et je mourrai ces jours-ci. » Retombant dans son fauteuil et enfonçant son bonnet sur ses oreilles, il expiait son orgueil par sa résignation et son humilité. Dans un dîner chez Migneret, je l'avais entendu parler de lui-même avec la plus grande modestie, déclarant qu'il n'avait rien fait de supérieur, mais qu'il croyait que l'art et la langue n'avaient point dégénéré entre ses mains. Monsieur de la Harpe quitta ce monde le 11 février 1803. L'auteur des Saisons mourait presque en même temps au milieu de toutes les consolations de la philosophie, comme Monsieur de la Harpe au milieu de toutes les consolations de la religion, l'un visité des hommes, l'autre visité de Dieu. Monsieur de la Harpe fut enterré le 12 février 1803 au cimetière de la barrière de Vaugirard. Le cercueil ayant été déposé au bord de la fosse, sur le petit monceau de terre qui le devait bientôt recouvrir, Monsieur de Fontanes prononça un discours. La scène était lugubre, les tourbillons de neige tombaient du ciel et blanchissaient le drap mortuaire que le vent soulevait, pour laisser passer les dernières paroles de l'amitié à l'oreille de la mort. Le cimetière a été détruit et Monsieur de la Harpe exhumé. Il n'existait presque plus rien de ses cendres chétives. Marié sous le directoire, Monsieur de la Harpe n'avait pas été heureux avec sa belle femme. Elle l'avait pris en horreur en le voyant et ne voulut jamais lui accorder aucun droit. Au reste, Monsieur de la Harpe avait, ainsi que toute chose, diminué auprès de la Révolution qui grandissait toujours. Les renommées se hâtaient de se retirer devant le représentant de cette Révolution, comme les périls perdaient leur puissance devant lui. Chapitre 4, Paris 1838, Année de ma vie 1802 et 1803, entrevue avec Bonaparte. Tandis que nous étions occupés du vivre et du mourir vulgaire, la marche gigantesque du monde s'accomplissait. L'homme du temps prenait le haut bout dans la race humaine. Au milieu des remuements immenses, précurseurs du déplacement universel, j'étais débarqué à Calais pour concourir à l'action générale dans la mesure assignée à chaque soldat. J'arrivais, la première année du siècle, au camp où Bonaparte battait le rappel des destinées. Il devint bientôt premier consul à vie. Après l'adoption du Concordat par le corps législatif en 1802, Lucien, ministre de l'Intérieur, donna une fête à son frère. J'y fus invité comme ayant rallié les forces chrétiennes et les ayant ramenées à la charge. J'étais dans la galerie lorsque Napoléon entra. Il me frappa agréablement. Je ne l'avais jamais aperçu que de loin. Son sourire était caressant et beau, son œil admirable, surtout par la manière dont il était placé sous son front et encadré dans ses sourcils. Il n'avait encore aucune charlatanerie dans le regard, rien de théâtral et d'affecté. Le génie du christianisme, qui faisait en ce moment beaucoup de bruit, avait agi sur Napoléon. Une imagination prodigieuse animait ce politique si froid. Il n'eût pas été ce qu'il était si la muse n'eût été là. La raison accomplissait les idées du poète. Tous ces hommes à grande vie sont toujours un composé de deux natures, car il les faut capables d'inspiration et d'action. L'une enfante le projet, l'autre l'accomplit. Bonaparte m'aperçut et me reconnut, j'ignore à quoi. Quand il se dirigea vers ma personne, on ne savait qui il cherchait. Les rangs s'ouvraient successivement. Chacun espérait que le consul s'arrêterait à lui. Il avait l'air d'éprouver une certaine impatience de ses méprises. Je m'enfonçai derrière mes voisins. Bonaparte éleva tout à coup la voix et me dit « Monsieur de Chateaubriand ». Je restai seul alors en avant, car la foule se retira et bientôt se reforma en cercle autour des interlocuteurs. Bonaparte m'aborda avec simplicité, sans me faire de compliments, sans questions oiseuses, sans préambule. Il me parla sur-le-champ de l'Égypte et des Arabes comme si j'eusse été de son intimité et comme s'il n'eût fait que continuer une conversation déjà commencée entre nous. « J'étais toujours frappé, me dit-il, quand je voyais les Cheikhs tomber à genoux au milieu du désert, se tourner vers l'Orient et toucher le sable de leur front. Qu'était-ce cette chose inconnue qu'ils adoraient vers l'Orient ?» Bonaparte s'interrompit et passant sans transition à une autre idée, « Le christianisme, les idéologues n'ont-ils pas voulu en faire un système d'astronomie ? Quand cela serait, croient-ils me persuader que le christianisme est petit ? Si le christianisme est l'allégorie du mouvement des sphères, la géométrie des astres, les esprits forts ont beau faire, malgré eux, ils ont encore laissé assez de grandeur à l'infâme. » Bonaparte incontinent s'éloigna. Comme à Job, dans ma nuit, un esprit est passé devant moi, les poils de ma chair se sont hérissés. Il s'est tenu là, je ne connais point son visage et j'ai entendu sa voix, comme un petit souffle. Mes jours n'ont été qu'une suite de visions. L'enfer et le ciel se sont continuellement ouverts sous mes pas ou sur ma tête, sans que j'aie eu le temps de sonder leurs ténèbres ou leurs lumières. J'ai rencontré une seule fois sur le rivage des deux mondes l'homme du dernier siècle et l'homme du nouveau, Washington et Napoléon. Je m'entretins un moment avec l'un et l'autre, tous deux me renvoyèrent à la solitude, le premier par un souhait bienveillant, le second par un crime. Je remarquai qu'en circulant dans la foule, Bonaparte me jetait des regards plus profonds que ceux qu'il avait arrêtés sur moi en me parlant. Je le suivais aussi des yeux. « Qui est quel grande, que non parque coril incendio ? Quel est ce grand qui n'a cure de l'incendie ?» Dante. Chapitre 5, Paris 1837, année de ma vie 1803, je suis nommé premier secrétaire d'ambassade à Rome. » À la suite de cette entrevue, Bonaparte pensa à moi pour Rome. Il avait jugé d'un coup d'œil où et comment je lui pouvais être utile. Peu lui importait que je n'eusse pas été dans les affaires, que j'ignorasse jusqu'au premier mot de la diplomatie pratique. Il croyait que tel esprit sait toujours et qu'il n'a pas besoin d'apprentissage. C'était un grand découvreur d'hommes, mais il voulait qu'ils n'eussent de talent que pour lui, à condition encore qu'on parlât peu de ce talent. Jaloux de toute renommée, il la regardait comme une usurpation sur la sienne. Il ne devait y avoir que Napoléon dans l'univers. Fontane et Madame Bacciocchi me parlèrent de la satisfaction que le consul avait eue de ma conversation. Je n'avais pas ouvert la bouche. Cela voulait dire que Bonaparte était content de lui. Ils me pressèrent de profiter de la fortune. L'idée d'être quelque chose ne m'était jamais venue. Je refusais net. Alors, on fit parler une autorité à laquelle il m'était difficile de résister. L'abbé Emery, supérieur du séminaire de Saint-Sulpice, vint me conjurer, au nom du clergé, d'accepter pour le bien de la religion la place de premier secrétaire de l'ambassade que Bonaparte destinait à son oncle, le cardinal Fesch. Il me faisait entendre que l'intelligence du cardinal n'étant pas très remarquable, je me trouverais bientôt le maître des affaires. Un hasard singulier m'avait mis en rapport avec l'abbé Emery. J'avais passé aux États-Unis avec l'abbé Nago et divers séminaristes, vous le savez. Ce souvenir de mon obscurité, de ma jeunesse, de ma vie de voyageur qui se réfléchissait dans ma vie publique me prenait par l'imagination et le cœur. L'abbé Emery, estimé de Bonaparte, était fin par sa nature, par sa robe et par la Révolution. Mais cette triple finesse ne lui servait qu'au profit de son vrai mérite. Ambitieux seulement de faire le bien, il n'agissait que dans le cercle de la plus grande prospérité d'un séminaire. Circonspect dans ses actions et dans ses paroles, il eût été superflu de violenter l'abbé Emery, car il tenait toujours sa vie à votre disposition, en échange de sa volonté qu'il ne cédait jamais. Sa force était de vous attendre, assis sur sa tombe. Il échoua dans sa première tentative, il revint à la charge, et sa patience me détermina. J'acceptai la place qu'il avait mission de me proposer, sans être le moins du monde convaincu de mon utilité au poste où l'on m'appelait. Je ne vaux rien du tout en seconde ligne. J'aurais peut-être encore reculé si l'idée de Madame de Beaumont n'était venue mettre un terme à mes scrupules. La fille de Monsieur de Montmorin se mourait. Le climat de l'Italie lui serait, disait-on, favorable. Moi, allant à Rome, elle se résoudrait à passer les Alpes. Je me sacrifiais à l'espoir de la sauver. Madame de Chateaubriand se prépara à me venir rejoindre. Monsieur Joubert parlait de l'accompagner et Madame de Beaumont partit pour le Mont d'Or afin d'achever ensuite sa guérison au bord du Tibre. Monsieur de Talleyrand occupait le ministère des Relations extérieures. Il m'expédia ma nomination. Je dînai chez lui. Il est demeuré tel dans mon esprit qu'il s'y plaça au premier moment. Au reste, ses belles façons faisaient contraste avec celles des marauds de son entourage. Ses roueries avaient une importance inconcevable. Aux yeux d'un brutal guépier, la corruption des mœurs semblait génie, la légèreté d'esprit profondeur. La Révolution était trop modeste. Elle n'appréciait pas assez sa supériorité. Ce n'est pas même chose d'être au-dessus ou au-dessous des crimes. Je vis les ecclésiastiques attachés au cardinal. Je distinguai le joyeux abbé de Bonnevie. Jadis, aumônier à l'armée des princes, il s'était trouvé à la retraite de Verdun. Il avait aussi été grand vicaire de l'évêque de Châlons, M. de Clermont-Tonnerre, qui s'embarqua derrière nous pour réclamer une pension du Saint-Siège, en qualité de Chiaramonte. Mes préparatifs achevés, je me mis en route. Je devais devancer à Rome l'oncle de Napoléon. Chapitre 6, Paris 1838, année de ma vie 1803, voyage de Paris aux Alpes de Savoie. À Lyon, je revis mon ami M. Ballanche. Je fus témoin de la fête-dieu renaissante. Je croyais avoir, quelque part, à ces bouquets de fleurs, à cette joie du ciel que j'avais rappelée sur la terre. Je continuais ma route. Un accueil cordial me suivait. Mon nom se mêlait au rétablissement des hôtels. Le plaisir le plus vif que j'ai éprouvé, c'est de m'être senti honoré en France et chez l'étranger des marques d'un intérêt sérieux. Il m'est arrivé, quelquefois, tandis que je me reposais dans une auberge de village, de voir entrer un père et une mère avec leur fils. Ils m'amenaient, me disaient-ils, leur enfant pour me remercier. Était-ce l'amour-propre qui me donnait alors ce plaisir dont je parle? Qu'importait à ma vanité que d'obscurs et d'honnêtes gens me témoignassent leur satisfaction sur un grand chemin, dans un lieu où personne ne les entendait? Ce qui me touchait, du moins j'ose le croire, c'est d'avoir produit un peu de bien, consolé quelques affligés, fait renaître au fond des entrailles d'une mère l'espérance d'élever un fils chrétien, c'est-à-dire un fils soumis, respectueux, attaché à ses parents. Aurais-je goûté cette joie pure si j'eusse écrit un livre dont les mœurs et la religion auraient eu à gémir? La route est assez triste en sortant de Lyon. Depuis la Tour du Pin jusqu'à Pont de Beauvoisin, elle est fraîche et bocagère. À Chambéry, où l'âme chevaleresque de Bayard se montra si belle, un homme fut accueilli par une femme, et pour prix de l'hospitalité qu'il en reçut, il se crut philosophiquement obligé de la déshonorer. Tel est le danger des lettres. Le désir de faire du bruit l'emporte sur les sentiments généreux. Si Rousseau ne fut jamais devenu écrivain célèbre, il aurait enseveli dans les vallées de la Savoie les faiblesses de la femme qui l'avait nourri. Il se serait sacrifié aux défauts même de son ami. Il l'aurait soulagé dans ses vieux ans, au lieu de se contenter de lui donner une tabatière et de s'enfuir. Ah, que la voix de l'amitié trahie ne s'élève jamais contre notre tombeau. Après avoir passé Chambéry, se présente le cours de l'Isère. On rencontre partout dans les vallées des croix sur les chemins et des madones dans le tronc des pins. Les petites églises, environnées d'arbres, font un contraste touchant avec les grandes montagnes. Quand les tourbillons de l'hiver descendent de ces sommets chargés de glace, le Savoyard se met à l'abri dans son temple champêtre et prie. Les vallées où l'on entre au-dessus de Montmélian sont bordées par des monts de diverses formes, tantôt demi-nus, tantôt habillés de forêts. Aiguebel semble clore les Alpes, mais en tournant un rocher isolé tombé dans le chemin, vous apercevez de nouvelles vallées attachées au cours de l'Arche. Les monts des deux côtés se dressent, leurs flancs deviennent perpendiculaires, leurs sommets stériles commencent à présenter quelques glaciers. Des torrents se précipitent et vont grossir l'Arche qui court follement. Au milieu de ce tumulte des eaux, on remarque une cascade légère qui tombe avec une grâce infinie sous un rideau de saule. Ayant passé Saint-Jean de Maurienne et arrivé vers le coucher du soleil à Saint-Michel, je ne trouvais pas de chevaux. Obligé de m'arrêter, j'allais me promener hors du village. L'air devint transparent à la crête des monts. Leur dentelure se traçait avec une netteté extraordinaire, tandis qu'une grande nuit, sortant de leurs pieds, s'élevait vers leur cime. La voix du rossignol était en bas, le cri de l'aigle en haut. L'alisier fleurit dans la vallée, la blanche neige sur la montagne. Un château, ouvrage des Carthaginois, selon la tradition populaire, se montrait sur le redan, taillé à pic. Là, s'était incorporée au rocher la haine d'un homme, plus puissante que tous les obstacles. La vengeance de l'espèce humaine pesait sur un peuple libre qui ne pouvait bâtir sa grandeur qu'avec l'esclavage et le sang du reste du monde. Je partis à la pointe du jour et j'arrivai, vers les 2 heures après-midi, à Lens-le-Bourg, au pied du Mont-Cenis. En entrant dans le village, je vis un paysan qui tenait un aiglon par les pieds. Une troupe impitoyable frappait le jeune roi, insultait à la faiblesse de l'âge et à la majesté tombée. Le père et la mère du noble orphelin avaient été tués. On me proposa de me le vendre. Il mourut des mauvais traitements qu'on lui avait fait subir avant que je le pusse délivrer. Je me souvenais alors du pauvre petit Louis XVII. Je pense aujourd'hui à Henri V. Quelle rapidité de chute et de malheur. Ici, l'on commence à gravir le Mont-Cenis et on quitte la petite rivière d'Arche qui vous conduit au pied de la montagne. De l'autre côté du Mont-Cenis, la Doria vous ouvre l'entrée de l'Italie. Les fleuves sont non seulement des grands chemins qui marchent, comme les appelle Pascal, mais ils tracent encore le chemin aux hommes. Quand je me vis pour la première fois au sommet des Alpes, une étrange émotion me saisit. J'étais comme cette alouette qui traversait en même temps que moi le plateau glacé et qui, après avoir chanté sa petite chanson de la plaine, s'abattait parmi des neiges au lieu de descendre sur des moissons. Les stances que m'inspirèrent ces montagnes en 1822 retracent assez bien les sentiments qui m'agitaient au même lieu en 1803. Alpes, vous n'avez point subi mes destinées. Le temps ne vous peut rien. Vos fronts légèrement ont porté les années qui pèsent sur le mien. Pour la première fois, quand, rempli d'espérance, je franchis vos remparts, ainsi que l'horizon, un avenir immense s'ouvrait à mes regards. L'Italie à mes pieds et devant moi le monde. Ce monde, y ai-je réellement pénétré? Christophe Colomb eut une apparition qui lui montra la terre de ses songes, avant qu'il l'eût découverte. Vasco de Gama rencontra sur son chemin le géant des tempêtes. Lequel de ces 2 grands hommes m'a prédit mon avenir? Ce que j'aurais aimé avant tout eût été une vie glorieuse par un résultat éclatant et obscur par sa destinée. Savez-vous quelles sont les premières cendres européennes qui reposent en Amérique? Ce sont celles de Bjorn, le Scandinave. Il mourut en abordant à Vinland et fut enterré par ses compagnons sur un promontoire. Qui sait cela? Qui connaît celui dont la voile devança le vaisseau du pilote génois au Nouveau Monde? Bjorn dort sur la pointe d'un cap ignoré, et depuis 1000 ans, son nom ne nous est transmis que par les sagas des poètes, dans une langue que l'on ne parle plus. Chapitre 7. Du Mont-Cenis à Rome, Milan et Rome. J'avais commencé mes courses dans le sens contraire des autres voyageurs. Les vieilles forêts de l'Amérique s'étaient offertes à moi avant les vieilles cités de l'Europe. Je tombais au milieu de celles-ci au moment où elles se rajeunissaient et mouraient à la fois dans une révolution nouvelle. Milan était occupé par nos troupes. On achevait d'abattre le château, témoin des guerres du Moyen-Âge. L'armée française s'établissait, comme une colonie militaire, dans les plaines de la Lombardie. Gardés çà et là par leurs camarades en sentinelles, ces étrangers de la Gaule, coiffés d'un bonnet de police, portant un sabre en guise de faucille par-dessus leur veste ronde, avaient l'air de moissonneurs empressés et joyeux. Ils remuaient des pierres, roulaient des canons, conduisaient des chariots, élevaient des hangars et des huttes de feuillage. Des chevaux sautaient, caracolaient, se cabraient dans la foule comme des chiens qui caressent leur maître. Des Italiennes vendaient des fruits sur leurs éventaires au marché de cette foire armée. Nos soldats leur faisaient présent de leurs pipes et de leurs briquets en leur disant, comme les anciens barbares, leurs pères, à leurs bien-aimés, « Moi, Fautrade, fils de Perthe, de la race des Francs, je te donne à toi, Elgine, mon épouse chérie, en honneur de ta beauté, in honore pulchritudinis tuae, mon habitation dans le quartier des Pins. Nous sommes de singuliers ennemis. On nous trouve d'abord un peu insolents, un peu trop gais, trop remuants. Nous n'avons pas plutôt tourné les talons qu'on nous regrette. Vif, spirituel, intelligent, le soldat français se mêle aux occupations de l'habitant chez lequel il est logé. Il tire de l'eau au puits, comme Moïse pour les filles de Madian, chasse les pasteurs, mène les agneaux au lavoir, fend le bois, fait le feu, veille à la marmite, porte l'enfant dans ses bras ou l'endort dans son berceau. Sa bonne humeur et son activité communiquent la vie à tout. On s'accoutume à le regarder comme un conscrit de la famille. Le tambour bat-il, le garnisaire court à son mousquet, laisse les filles de son hôte pleurant sur la porte et quitte la chaumière, à laquelle il ne pensera plus avant qu'il soit entré aux Invalides. À mon passage à Milan, un grand peuple réveillé ouvrait un moment les yeux. L'Italie sortait de son sommeil et se souvenait de son génie comme d'un rêve divin. Utile à notre propre renaissance, elle apportait dans la mesquinerie de notre pauvreté la grandeur de la nature transalpine, nourrie qu'elle était, cette Ausonie, au chef-d'œuvre des arts et dans les hautes réminiscences d'une patrie fameuse. L'Autriche est venue, elle a remis son manteau de plomb sur les Italiens. Elle les a forcés à regagner leur cercueil. Rome est rentrée dans ses ruines, Venise dans sa mer. Venise s'est affaissée en embellissant le ciel de son dernier sourire. Elle s'est couchée charmante dans ses flots comme un astre qui ne doit plus se lever. Le général Murat commandait à Milan. J'avais pour lui une lettre de Madame Bacciocchi. Je passais la journée avec les aides de camp. Ils n'étaient pas aussi pauvres que mes camarades devant Thionville. La politesse française reparaissait sous les armes. Elle tenait à prouver qu'elle était toujours du temps de Lautrec. Je dînais en grand gala, le 23 juin, chez M. de Melzy, à l'occasion du baptême de l'enfant du général Murat. M. de Melzy avait connu mon frère. Les manières du vice-président de la République cisalpine étaient belles. Sa maison ressemblait à celle d'un prince qui l'aurait toujours été. Il me traita poliment et froidement. Il me trouva tout juste dans des dispositions pareilles aux siennes. J'arrivai à ma destination le 27 juin au soir, avant-veille de la Saint-Pierre. Le prince des apôtres m'attendait comme mon indigent patron me reçut depuis à Jérusalem. J'avais suivi la route de Florence, de Sienne et de Radicofani. Je m'empressai d'aller rendre ma visite à M. Cacot, auquel le cardinal Fesch succédait, tandis que je remplaçais M. Artaud. Le 28 juin, je courus tout le jour. Je jetai un premier regard sur le Colisée, le Panthéon, la colonne Trajane et le château Saint-Ange. Le soir, M. Artaud me mena à un bal dans une maison aux environs de la place Saint-Pierre. On apercevait la girandole de feu de la coupole de Michel-Ange entre les tourbillons des valses qui roulaient devant les fenêtres ouvertes. Les fusées du feu d'artifice, du môle d'Adrien, s'épanouissaient à Saint-Onufre sur le tombeau du Tasse. Le silence, l'abandon et la nuit étaient dans la campagne romaine. Le lendemain, j'assistai à l'office de la Saint-Pierre. Pie VII, pâle, triste et religieux, était le vrai pontife des tribulations. Deux jours après, je fus présenté à sa sainteté. Elle me fit asseoir auprès d'elle. Un volume du génie du christianisme était obligeamment ouvert sur sa table. Le cardinal Consalvi, souple et ferme, d'une résistance douce et polie, était l'ancienne politique romaine vivante, moins la foi du temps et plus la tolérance du siècle. En parcourant le Vatican, je m'arrêtais à contempler ces escaliers, où l'on peut monter à dos de mulet. Ces galeries ascendantes repliées les unes sur les autres, ornées de chefs-d'œuvre, le long desquels les papes d'autrefois passaient avec toute leur pompe. Ces loges que tant d'artistes immortels ont décorées, tant d'hommes illustres admirés, Pétrarque, Tasse, Arioste, Montaigne, Milton, Montesquieu, et puis des reines et des rois, ou puissants ou tombés, enfin un peuple de pèlerins venus des quatre parties de la terre. Tout cela maintenant immobile et silencieux. Théâtre dont les gradins abandonnés, ouverts devant la solitude, sont à peine visités par un rayon de soleil. On m'avait recommandé de me promener au clair de la lune. Du haut de la Trinité du Mont, les édifices lointains paraissaient comme les ébauches d'un peintre, ou comme des côtes enfumées vues de la mer, du bord d'un vaisseau. L'astre de la nuit, ce globe que l'on suppose un monde fini, promenait ses pâles déserts au-dessus des déserts de Rome. Il éclairait des rues sans habitants, des enclos, des places, des jardins où il ne passe personne, des monastères où l'on n'entend plus la voix des cénobites, des cloîtres aussi muets et aussi dépeuplés que les portiques du Colisée. Qu'arriva-t-il, il y a 18 siècles, à pareille heure et au même lieu? Quels hommes ont ici traversé l'ombre de ces obélisques, après que cette ombre eût cessé de tomber sur les sables d'Égypte? Non seulement l'ancienne Italie n'est plus, mais l'Italie du Moyen-Âge a disparu. Toutefois, la trace de ces deux Italies est encore marquée dans la ville éternelle. Si la Rome moderne montre son Saint-Pierre et ses chefs-d'œuvre, la Rome ancienne lui oppose son Panthéon et ses débris. Si l'une fait descendre du Capitole ses consuls, l'autre amène du Vatican ses pontifes. Le Tibre sépare les deux gloires. Assise dans la même poussière, Rome païenne s'enfonce de plus en plus dans ses tombeaux et Rome chrétienne redescend peu à peu dans ses catacombes. Chapitre 8. Palais du cardinal Fesch, mes occupations. Le cardinal Fesch avait loué, assez près du Tibre, le palais Lancelotti. J'y ai vu depuis, en 1827, la princesse Lancelotti. On me donna le plus haut étage du palais. En y entrant, une si grande quantité de puces me sautèrent aux jambes que mon pantalon blanc en était tout noir. L'abbé de Bonnevie et moi nous fîmes le mieux que nous pûmes laver notre demeure. Je me croyais retourné à mes chenils de New Road. Ce souvenir de ma pauvreté ne me déplaisait pas. Établi dans ce cabinet diplomatique, je commençais à délivrer des passeports et à m'occuper de fonctions aussi importantes. Mon écriture était un obstacle à mes talents, et le cardinal Fesch haussait les épaules quand il apercevait ma signature. Je n'avais presque rien à faire dans ma chambre aérienne qu'à regarder par-dessus les toits, dans une maison voisine, des blanchisseuses qui me faisaient des signes. Une cantatrice future, instruisant sa voix, me poursuivait de son solfège éternel. Heureux quand il passait quelque enterrement pour me désennuyer. Du haut de ma fenêtre, je vis dans l'abîme de la rue le convoi d'une jeune mère. On la portait, le visage découvert, entre deux rangs de pèlerins blancs. Son nouveau-né mort aussi et couronné de fleurs était couché à ses pieds. Il m'échappa une grande faute. Ne doutant de rien, je crus devoir rendre visite aux personnes notables. J'allais sans façon offrir l'hommage de mon respect au roi abdicataire de Sardaigne. Un horrible cancan sortit de cette démarche insolite. Tous les diplomates se boutonnèrent. « Il est perdu, il est perdu !» répétaient les caudataires et les attachés, avec la joie que l'on éprouve charitablement aux mésaventures d'un homme, quel qu'il soit. Pas une buse diplomatique qui ne se crût supérieure à moi de toute la hauteur de sa bêtise. On espérait bien que j'allais tomber, quoique je ne fusse rien et que je ne comptasse pour rien. N'importe, c'était quelqu'un qui tombait, cela fait toujours plaisir. Dans ma simplicité, je ne me doutais pas de mon crime, et comme depuis, je n'aurais pas donné d'une place quelconque un fétu. Les rois, auxquels on croyait que j'attachais une importance si grande, n'avaient à mes yeux que celle du malheur. On écrivit de Rome à Paris mes effroyables sottises. Heureusement, j'avais affaire à Bonaparte. Ce qui devait me noyer me sauva. Toutefois, Si de prime abord et de plein sceau devenir premier secrétaire d'ambassade sous un prince de l'Église, oncle de Napoléon, paraissait être quelque chose, c'était néanmoins comme si j'eusse été expéditionnaire dans une préfecture. Dans les démêlés qui se préparaient, j'aurais pu trouver à m'occuper, mais on ne m'initiait à aucun mystère. Je me pliais parfaitement au contentieux de chancellerie. Mais à quoi bon perdre mon temps dans des détails à la portée de tous les commis? Après mes longues promenades et mes fréquentations du Tibre, je ne rencontrais en rentrant, pour m'occuper, que les parcimonieuses tracasseries du cardinal, les rodomontades gentilhommières de l'évêque de Châlons et les incroyables menteries du futur évêque de Maroc. L'abbé Guillon, profitant d'une ressemblance de nom qui sonnait à l'oreille de la même manière que le sien, prétendait, après s'être échappé miraculeusement du massacre des Carmes, avoir donné l'absolution à madame de Lamballe, à la force. Il se vantait d'être l'auteur du discours de Robespierre à l'être suprême. Je pariais un jour lui faire dire qu'il était allé en Russie. Il n'en convint pas tout à fait, mais il avoua avec modestie qu'il avait passé quelques mois à Saint-Pétersbourg. Monsieur de la Maisonfort, homme d'esprit qui se cachait, eut recours à moi, et bientôt Monsieur Bertin, l'aîné, propriétaire des débats, m'assista de son amitié dans une circonstance douloureuse. Exilé à l'île d'Elbe par l'homme qui, revenant à son tour de l'île d'Elbe, le poussa à Gand, Monsieur Bertin avait obtenu en 1803 du républicain Monsieur Briot, que j'ai connu, la permission d'achever son banc en Italie. C'est avec lui que je visitais les ruines de Rome et que je vis mourir madame de Beaumont, deux choses qui ont lié sa vie à la mienne. Critique plein de goût, il m'a donné, ainsi que son frère, d'excellents conseils pour mes ouvrages. Il eût montré un vrai talent de parole s'il avait été appelé à la tribune. Longtemps légitimiste, ayant subi l'épreuve de la prison au Temple et celle de la déportation à l'île d'Elbe, ses principes sont, au fond, demeurés les mêmes. Je resterai fidèle aux compagnons de mes mauvais jours. Toutes les opinions politiques de la terre seraient trop payées par le sacrifice d'une heure d'une sincère amitié. Il suffit que je reste invariable dans mes opinions comme je reste attaché à mes souvenirs. Vers le milieu de mon séjour à Rome, la princesse Borghèse arriva. J'étais chargé de lui remettre des souliers de Paris. Je lui fus présenté. Elle fit sa toilette devant moi. La jeune et jolie chaussure qu'elle mit à ses pieds ne devait fouler qu'un instant cette vieille terre. Un malheur me vint enfin occuper. C'est une ressource sur laquelle on peut toujours compter.